La prisonnière, chapitre 1er, suite 7. Laissant ses pensées, maintenant qu'Albertine était sortie, j'allais me mettre un instant à la fenêtre. Il y eut d'abord un silence, où le sifflet du marchand de tripes et la corne du tramway firent résonner l'air à des octaves différentes, comme un accordeur de piano aveugle. Puis, peu à peu, devinrent distincts les motifs entrecroisés auxquels de nouveau s'ajoutaient. Il y avait aussi un autre sifflet, appel d'un marchand dont je n'ai jamais su ce qu'il vendait. Sifflet qui, lui, était exactement pareil à celui d'un tramway. Et comme il n'était pas emporté par la vitesse, on croyait à un seul tramway, non doué de mouvement, ou en panne, immobilisé, criant à petits intervalles, comme un animal qui meurt. Et il me semblait que, si jamais je devais quitter ce quartier aristocratique, à moins que ce ne fût pour un tout à fait populaire, les rues et boulevards du centre, où la fruiterie, la poissonnerie, etc., stabilisés dans de grandes maisons d'alimentation, rendraient inutiles les cris des marchands, qui n'eussent pas, du reste, réussi à se faire entendre, me semblerait bien morne, bien inhabitable, dépouillé, décanté de toutes ces litanies des petits métiers et des ambulantes mangeailles, privé de l'orchestre qui venait me charmer dès le matin. Sur le trottoir, une femme peu élégante, ou obéissant à une mode laide, passait, trop claire dans un paletot-sac en poil de chèvre. Mais non, ce n'était pas une femme, c'était un chauffeur qui, enveloppé dans sa peau de bique, gagnait à pied son garage. Échappé des grands hôtels, les chasseurs ailés, aux teintes changeantes, filaient vers les gares, au ras de leurs bicyclettes, pour rejoindre les voyageurs au train du matin. Le ronflement d'un violon était dû parfois au passage d'une automobile, parfois à ce que je n'avais pas mis assez d'eau dans ma bouillotte électrique. Au milieu de la symphonie, détonnait un air démodé, remplaçant la vendeuse de bonbons qui accompagnait d'habitude son air avec une crécelle. Le marchand de jouets, au mirliton duquel était attaché un pantin qu'il faisait mouvoir en tous sens, promenait d'autres pantins et, sans souci de la déclamation rituelle de Grégoire le Grand, de la déclamation réformée de Palestrina et de la déclamation lyrique des modernes, entonnait à pleine voix, partisan attardé de la pure mélodie, « Allons, les papas, allons, les mamans, contentez vos petits-enfants. C'est moi qui les fais, c'est moi qui les vends, et c'est moi qui boulotte l'argent, tra-la-la, tra-la-la-la-l'air. Allons, les petits !» De petits Italiens, coiffés d'un béret, n'essayaient pas de lutter avec cet aria vivace. Et c'est sans rien dire qu'ils offraient de petites statuettes. Cependant qu'un petit fifre réduisait le marchand de jouets à s'éloigner et à chanter plus confusément, quoique presto, « Allons les papas, allons les mamans !» Le petit fifre était-il un de ces dragons que j'entendais le matin à Doncières ? Non, car ce qui suivait, c'était ces mots. « Voilà le réparateur de faïence et de porcelaine. Je répare le verre, le marbre, le cristal. » L'os, l'ivoire et objets d'antiquité. Voilà le réparateur. Dans une boucherie, où à gauche était une auréole de soleil et à droite un bœuf entier pendu, un garçon boucher, très grand et très mince, aux cheveux blonds, son cou sortant d'un col bleu ciel, mettait une rapidité vertigineuse et une religieuse conscience à mettre d'un côté les filets de bœuf exquis, de l'autre de la culotte de dernier ordre, les plaçait dans des blouissantes balances surmontées d'une croix, d'où retombaient de belles chaînettes, et, bien qu'il ne fît ensuite que disposer pour l'étalage des rognons, des tournedos, des entrecôtes, donnait en réalité beaucoup plus l'impression d'un bel ange, qui, au jour du jugement dernier, préparera pour Dieu, selon leurs qualités, la séparation des bons et des méchants et la pesée des âmes. » Et de nouveau le fifre grêle et fin montait dans l'air, annonciateur non plus des destructions que redoutait Françoise chaque fois que défilait un régiment de cavalerie, mais de réparations promises par un antiquaire, naïf ou gouailleur, et qui, en tout cas fort éclectique, loin de se spécialiser, avait pour objet de son art les matières les plus diverses. Les petites porteuses de pain se hâtaient d'enfiler dans leurs paniers les flûtes destinées au grand déjeuner. Et à leurs crochets, les laitières attachaient vivement les bouteilles de lait. La vue nostalgique que j'avais de ces petites filles, pouvais-je la croire bien exacte? N'eût-elle pas été autre si j'avais pu garder immobile quelques instants auprès de moi une de celles que, de la hauteur de ma fenêtre, je ne voyais que dans la boutique ou en fuite? Pour évaluer la perte que me faisait éprouver la réclusion, c'est-à-dire la richesse que m'offrait la journée, il eût fallu intercepter dans le long déroulement de la frise animée quelques fillettes portant son linge ou son lait, la faire passer un moment comme une silhouette d'un décor mobile entre les portants dans le cadre de ma porte, et la retenir sous mes yeux, non sans obtenir sur elle quelques renseignements qui me permit de la retrouver un jour. Et pareil, cette fiche signalétique que les ornithologues ou les ichtyologues attachent, avant de leur rendre la liberté, sous le ventre des oiseaux ou des poissons dont ils veulent pouvoir identifier les migrations. Aussi, dis-je à Françoise, que, pour une course que j'avais à faire, elle voulut m'envoyer, s'il en venait quelqu'une, telle ou telle de ces petites qui venaient sans cesse chercher et rapporter le linge, le pain ou les carafes de lait, et par lesquelles souvent elle faisait faire des commissions. J'étais pareille en cela à Elstir, qui, obligée de rester enfermée dans son atelier, certains jours de printemps où savoir que les bois étaient pleins de violettes lui donnait une telle fringale d'en regarder, envoyer sa concierge lui en acheter un bouquet. Alors, ce n'est pas la table sur laquelle il avait posé le petit modèle végétal, mais tout le tapis des sous-bois où il avait vu autrefois, par milliers, les tiges serpentines fléchissant sous leur bec bleu, qu'Elstir croyait avoir sous les yeux, comme une zone imaginaire qu'enclavait dans son atelier la limpide odeur de la fleur évocatrice. De blanchisseuse, un dimanche, il ne fallait pas penser qu'il en vint. Quant à la porteuse de pain, par une mauvaise chance, elle avait sonné pendant que Françoise n'était pas là, avait laissé ses flûtes dans la corbeille, sur le palier, et s'était sauvée. La fruitière ne viendrait que bien plus tard. Une fois, j'étais entrée commander un fromage chez le crémier, et au milieu des petites employées, j'en avais remarqué une, vraie extravagance blonde, haute de taille, bien que puérile, et qui, au milieu des autres porteuses, semblait rêver, dans une attitude assez fière. Je ne l'avais vue que de loin, et en passant si vite que je n'aurais pu dire comment elle était, et sinon qu'elle avait dû pousser trop vite, et que sa tête portait une toison donnant l'impression bien moins des particularités capillaires que d'une stylisation sculpturale des méandres isolés de névés parallèles. C'est tout ce que j'avais distingué, ainsi qu'un nez très dessiné, chose rare chez un enfant, dans une figure maigre et qui rappelait le bec des petits des vautours. D'ailleurs, le groupement autour d'elle de ses camarades n'avait pas été seul à m'empêcher de la bien voir, mais aussi l'incertitude des sentiments que je pouvais, à première vue et ensuite, lui inspirer, qu'ils fussent de fierté farouche ou d'ironie ou d'un dédain exprimé plus tard à ses amis. Ces suppositions alternatives que j'avais faites en une seconde à son sujet avaient épaissi autour d'elle l'atmosphère trouble où elle se dérobait, comme une déesse dans la nue que fait trembler la foudre. car l'incertitude morale est une cause plus grande de difficulté à une exacte perception visuelle que ne serait un défaut matériel de l'œil. Et cette trop maigre jeune personne, qui frappait aussi trop l'attention, l'excès de ce qu'un autre eût peut-être appelé les charmes, était justement ce qui était pour me déplaire, mais avait tout de même eu pour résultat de m'empêcher même d'apercevoir rien, à plus forte raison de me rien rappeler des autres petites crémières, que le nez arqué de celle-ci et son regard. Chose si peu agréable, pensif, personnel, ayant l'air de juger, avait plongé dans la nuit à la façon d'un éclair blond qui enténèbre le paysage environnant. Et ainsi, de ma visite pour commander un fromage chez le crémier, je ne m'étais rappelé, si on peut dire se rappeler à propos d'un visage si mal regardé qu'on adapte 10 fois au néant du visage un nez différent. Je ne m'étais rappelé que la petite qui m'avait déplu. Cela suffit à faire commencer un amour. Pourtant, j'eusse oublié l'extravagance blonde et n'aurais jamais souhaité de la revoir, si Françoise ne m'avait dit que, quoique bien gamine, cette petite était délurée et allait quitter sa patronne parce que, trop coquette, elle devait de l'argent dans le quartier. On a dit que la beauté est une promesse de bonheur. Inversement, la possibilité du plaisir peut être un commencement de beauté. Je me mis à lire la lettre de maman. À travers ces citations de Madame de Sévigné, si mes pensées ne sont pas tout à fait noires à Combray, elles sont au moins d'un gris brun. Je pense à toi à tout moment. Je te souhaite ta santé, tes affaires, ton éloignement. Que penses-tu que tout cela puisse faire entre chien et loup ? Je sentais que ma mère était ennuyée de voir que le séjour d'Albertine à la maison se prolongeait et s'affermir, quoique non encore déclaré à la fiancée mes intentions de mariage. Elle ne me le disait pas plus directement, parce qu'elle craignait que je laissasse traîner mes lettres. Encore, si voilée qu'elles fussent, me reprochait-elle de ne pas l'avertir immédiatement, après chacune que je l'avais reçue. Tu sais bien que Madame de Sévigné disait « Quand on est loin, on ne se moque plus des lettres qui commencent par « J'ai reçu la vôtre ». Sans parler de ce qui l'inquiétait le plus, elle se disait fâchée de mes grandes dépenses. « À quoi peut passer tout ton argent ? Je suis déjà assez tourmentée de ce que, comme Charles de Sévigné, tu ne saches pas ce que tu veux et que tu sois 2 ou 3 hommes à la fois. » Mais tâche au moins de ne pas être comme lui pour la dépense, et que je ne puisse pas dire de toi. Il a trouvé le moyen de dépenser sans paraître, de perdre sans jouer et de payer sans s'acquitter. Je venais de finir le mot de maman quand Françoise revint me dire qu'elle avait justement là la petite laitière un peu trop hardie dont elle m'avait parlé. Elle pourra très bien porter la lettre de monsieur et faire les courses, si ce n'est pas trop loin. Monsieur va voir, elle a l'air d'un petit chaperon rouge. » Françoise alla la chercher, et je l'entendis qui la guidait en lui disant « Eh bien, voyons, tu as peur parce qu'il y a un couloir ? Bougre de truffe, je te croyais moins empruntée. Faut-il que je te mène par la main ?» Et Françoise, en bonne et honnête servante, qui entendait faire respecter son maître, comme elle le respecte elle-même, s'était drapée de cette majesté qui anoblit les entremetteuses dans les tableaux de vieux maîtres, où, à côté d'elle, s'efface, presque dans l'insignifiance, la maîtresse et l'amant. Mais Elstir, quand il les regardait, n'avait pas à se préoccuper de ce que faisaient les violettes. L'entrée de la petite laitière m'ôta aussitôt mon calme de contemplateur. Je ne songeais plus qu'à rendre vraisemblable la fable de la lettre à lui faire porter. Et je me mis à écrire rapidement, sans oser la regarder qu'à peine, pour ne pas paraître l'avoir fait entrer pour cela. Elle était parée pour moi de ce charme de l'inconnu qui ne serait pas ajoutée pour moi à une jolie fille trouvée dans ces maisons où elles vous attendent. Elle n'était ni nue ni déguisée, mais une vraie crémière, une de celles qu'on s'imagine si jolie quand on n'a pas le temps de s'approcher d'elle. Elle était un peu de ce qui fait l'éternel désir, l'éternel regret de la vie, dont le double courant est enfin détourné, amené auprès de nous. Double, car s'il s'agit d'inconnus, d'un être deviné devoir être divin d'après sa stature, ses proportions, son indifférent regard, son calme hautain. D'autre part, on veut cette femme bien spécialisée dans sa profession, nous permettant de nous évader dans ce monde qu'un costume particulier nous fait romanesquement croire différent. Au reste, si l'on cherche à faire tenir dans une formule la loi de nos curiosités amoureuses, il faudrait la chercher dans le maximum d'écart entre une femme aperçue et une femme approchée, caressée. Si les femmes de ce qu'on appelait autrefois les maisons closes, si les cocottes elles-mêmes, à condition que nous sachions qu'elles sont des cocottes, nous attirent si peu, ce n'est pas qu'elles soient moins belles que d'autres, c'est qu'elles sont toutes prêtes, que ce qu'on cherche précisément à atteindre, elles nous l'offrent déjà. C'est qu'elles ne sont pas des conquêtes. L'écart, là, est à son minimum. Une grue nous sourit déjà dans la rue, comme elle le fera près de nous. Nous sommes des sculpteurs, nous voulons obtenir d'une femme une statue entièrement différente de celle qu'elle nous a présentée. Nous avons vu une jeune fille indifférente, insolente, au bord de la mer. Nous avons vu une vendeuse sérieuse et active à son comptoir, qui nous répondra sèchement, ne fût-ce que pour ne pas être l'objet des moqueries de ses copines. Une marchande de fruits qui nous répond à peine. Eh bien, nous n'avons de cesse que nous puissions expérimenter si la fière jeune fille au bord de la mer, si la vendeuse à cheval sur le camp dira-t-on, si la distraite marchande de fruits ne sont pas susceptibles, à la suite de manèges adroits de notre part, de laisser fléchir leur attitude rectiligne, d'entourer notre cou de leurs bras qui portaient les fruits, d'incliner sur notre bouche avec un sourire consentant, des yeux jusque-là glacés ou distraits. Ô beauté des yeux sévères! Aux heures du travail, où l'ouvrière craignait tant la médisance de ses compagnes, des yeux qui fuyaient nos obsédants regards, et qui, maintenant que nous l'avons vue seule à seule, font plier leurs prunelles sous le poids ensoleillé du rire, quand nous parlons de faire l'amour. Entre la vendeuse, la blanchisseuse attentive à repasser, la marchande de fruits, la crémière, et cette même fillette qui va devenir notre maîtresse. Le maximum d'écart est atteint, tendu encore à ses extrêmes limites, et varié par ces gestes habituels de la profession qui font des bras, pendant la durée du labeur, quelque chose d'aussi différent que possible, comme arabesque de ces souples liens qui déjà, chaque soir, s'enlacent à notre cou, tandis que la bouche s'apprête pour le baiser. Aussi, passons-nous toute notre vie en inquiète démarche, sans cesse renouvelée auprès des filles sérieuses, et que leur métier semble éloigné de nous. Une fois dans nos bras, elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Cette distance que nous rêvions de franchir est supprimée. Mais on recommence avec d'autres femmes. On donne à ces entreprises tout son temps, tout son argent, toutes ses forces. On crève de rage contre le cocher trop lent qui va peut-être nous faire manquer notre premier rendez-vous. On a la fièvre. Ce premier rendez-vous, on sait pourtant qu'il accomplira l'évanouissement d'une illusion. Il n'importe tant que l'illusion dure. On veut voir si on peut la changer en réalité. Et alors, on pense à la blanchisseuse dont on a remarqué la froideur. La curiosité amoureuse et comme celle qu'excite en nous les noms de pays. Toujours déçue, elle renaît et reste toujours insatiable. Hélas, Une fois auprès de moi, la blonde crémière aux mèches striées, dépouillée de tant d'imagination et de désirs réveillés en moi, se trouva réduite à elle-même. Le nuage frémissant de mes suppositions ne l'enveloppait plus d'un vertige. Elle prenait un air tout penaud de n'avoir plus, au lieu des 10, des 20 que je me rappelais tour à tour sans pouvoir fixer mon souvenir, qu'un seul nez, plus rond que je ne l'avais cru, qui donnait une idée de bêtise et avait en tout cas perdu le pouvoir de se multiplier. Ce vol capturé, inerte, anéanti, incapable de rien ajouter à sa pauvre évidence, n'avait plus mon imagination pour collaborer avec lui. Tombé dans le réel immobile, je tâchais de rebondir. Les joues, non aperçues de la boutique, me parurent si jolies que j'en fus intimidée, et pour me donner une contenance, je dis à la petite crémière « Seriez-vous assez bonne pour me passer le Figaro qui est là ? Il faut que je regarde le nom de l'endroit où je veux vous envoyer. » Aussitôt, en prenant le journal, elle découvrit jusqu'au coude la manche rouge de sa jaquette et me tendit la feuille conservatrice d'un geste adroit et gentil qui me plut par sa rapidité familière, son apparence moelleuse et sa couleur écarlate. Pendant que j'ouvrais le Figaro, pour dire quelque chose et sans lever les yeux, je demandai à la petite « Comment s'appelle ce que vous portez là en tricot rouge? C'est très joli. » Elle me répondit « C'est mon golf. » Car, par une déchéance habituelle à toutes les modes, les vêtements et les mots qui, il y a quelques années, semblaient appartenir au monde relativement élégant des amis d'Albertine, étaient maintenant le lot des ouvrières. « Ça ne vous gênerait vraiment pas trop, » dis-je en faisant semblant de chercher dans le Figaro, « que je vous envoie même un peu loin ?» Dès que j'eus ainsi l'air de trouver pénible le service qu'elle me rendrait en faisant une course, aussitôt elle commença à trouver que c'était gênant pour elle. « C'est que je dois aller tantôt me promener en vélo. Dame, nous n'avons que le dimanche. » « Mais vous n'avez pas froid, nu-tête comme cela ?»« Ah, je ne serai pas nu-tête, j'aurai mon polo, et je pourrai m'en passer avec tous mes cheveux. » Je levai les yeux sur les mèches flavescentes et frisées, et je sentis que leur tourbillon m'emportait, le cœur battant, dans la lumière et les rafales d'un ouragan de beauté. Je continuais à regarder le journal, mais, bien que ce ne fût que pour me donner une contenance et me faire gagner du temps, tout en ne faisant que semblant de lire, je comprenais tout de même le sens des mots qui étaient sous mes yeux, et ceci me frappait. Au programme de la matinée que nous avons annoncée et qui sera donnée cet après-midi dans la salle des fêtes du Trocadéro, il faut ajouter le nom de mademoiselle Léa, qui a accepté d'y paraître dans les fourberies de Nérine. Elle tiendra bien entendu le rôle de Nérine, où elle est étourdissante de verve et d'ensorceleuse gaieté. Ce fut comme si on avait brutalement arraché de mon cœur le pansement sous lequel il avait commencé, depuis mon retour de Balbec, à se cicatriser. Le flux de mes angoisses s'échappa à torrents. Léa, c'était la comédienne amie des deux jeunes filles de Balbec, qu'Albertine, sans avoir l'air de les voir, avait un après-midi au casino, regardé dans la glace. Il est vrai qu'à Balbec, Albertine, au nom de Léa, avait pris un ton de componction particulier pour me dire, presque choquée qu'on pût soupçonner une telle vertu, « Oh non, ce n'est pas du tout une femme comme ça. C'est une femme très bien. » Malheureusement pour moi, quand Albertine émettait une affirmation de ce genre, ce n'était jamais que le premier stade d'affirmation différente. Peu après la première, venait cette deuxième. « Je ne la connais pas. » En troisième lieu, quand Albertine m'avait parlé d'une telle personne, insoupçonnable, et que, secundo, elle ne connaissait pas, elle oubliait peu à peu, d'abord avoir dit qu'elle ne la connaissait pas, et dans une phrase où elle se coupait sans le savoir, racontait qu'elle la connaissait. Ce premier oubli consommé, et la nouvelle affirmation ayant été émise, un deuxième oubli commençait, celui que la personne était insoupçonnable. « Est-ce qu'une telle, demandai-je, n'a pas de telles mœurs ?»« Mais voyons, naturellement, c'est connu comme tout. » Aussitôt, le ton de componction reprenait pour une affirmation qui était un vague écho, fort amoindri, de la toute première. Je dois dire qu'avec moi, elle a toujours été d'une convenance parfaite. Naturellement, elle savait que je l'aurais remisée, et de la belle manière. Mais enfin, cela ne fait rien. Je suis obligée de lui être reconnaissante du vrai respect qu'elle m'a toujours témoigné. On voit qu'elle savait à qui elle avait affaire. On se rappelle la vérité parce qu'elle a un nom, des racines anciennes. Mais un mensonge improvisé s'oublie vite. Albertine oubliait ce dernier mensonge-là, le quatrième. Et un jour où elle voulait gagner ma confiance par des confidences, elle se laissait aller à me dire de la même personne, au début si comme il faut et qu'elle ne connaissait pas. Elle a eu le béguin pour moi. Trois ou quatre fois, elle m'a demandé de l'accompagner jusque chez elle et de monter la voir. L'accompagner, je n'y voyais pas de mal devant tout le monde, en plein jour, en plein air. Mais, arrivée à sa porte, je trouvais toujours un prétexte et je ne suis jamais montée. Et quelque temps après, Albertine faisait allusion à la beauté des objets qu'on voyait chez la même dame. D'approximation en approximation, on fut sans doute arrivé à lui faire dire la vérité, qui était peut-être moins grave que je n'étais portée à le croire, car peut-être, facile avec les femmes, préférait-elle un amant, et maintenant que j'étais le sien, n'eût-elle pas songé à Léa. En tout cas, pour cette dernière, je n'en étais qu'à la première affirmation, et j'ignorais si Albertine la connaissait. Déjà, en tout cas pour bien des femmes, il m'eût suffi de rassembler devant mon amie, en une synthèse, ses affirmations contradictoires pour la convaincre de ses fautes. Fautes qui sont bien plus aisées, comme les lois astronomiques, à dégager par le raisonnement, qu'à observer, qu'à surprendre dans la réalité. Mais elle aurait encore mieux aimé dire qu'elle avait menti quand elle avait émis une de ses affirmations, dont ainsi le retrait ferait écrouler tout mon système. Plutôt que de reconnaître que tout ce qu'elle avait raconté dès le début n'était qu'un tissu de contes mensongers. Il en est de semblable dans les mille et une nuits, et qui nous y charment. Ils nous font souffrir dans une personne que nous aimons, et à cause de cela, nous permettent d'entrer un peu plus avant dans la connaissance de la nature humaine, au lieu de nous contenter de nous jouer à sa surface. Le chagrin pénètre en nous, et nous force, par la curiosité douloureuse, à pénétrer. D'où des vérités que nous ne nous sentons pas le droit de cacher, si bien qu'un athée moribond qui les a découvertes, assuré du néant, insoucieux de la gloire, use pourtant ses dernières heures à tâcher de les faire connaître. Sans doute, je n'en étais qu'à la première de ces affirmations pour Léa. J'ignorais même si Albertine la connaissait ou non. N'importe, cela revenait au même. Il fallait à tout prix éviter qu'au Trocadéro elle pût retrouver cette connaissance, ou faire la connaissance de cet inconnu. Je dis que je ne savais si elle connaissait Léa ou non. J'avais dû pourtant l'apprendre à Balbec, d'Albertine elle-même. Car l'oubli anéantissait aussi bien chez moi que chez Albertine une grande part des choses qu'elle m'avait affirmées. La mémoire, au lieu d'un exemplaire en double, toujours présent à nos yeux, des divers faits de notre vie, est plutôt un néant, d'où par instant une similitude actuelle nous permet de tirer, ressusciter, des souvenirs morts. Mais encore, il y a mille petits faits qui ne sont pas tombés dans cette virtualité de la mémoire et qui resteront à jamais incontrôlables pour nous. Tout ce que nous ignorons se rapportait à la vie réelle de la personne que nous aimons. Nous n'y faisons aucune attention. Nous oublions aussitôt ce qu'elle nous a dit à propos de tels faits ou de tels gens que nous ne connaissons pas, et l'air qu'elle avait en nous le disant. Aussi, quand ensuite notre jalousie est excitée par ces mêmes gens, pour savoir si elle ne se trompe pas, si c'est bien à eux qu'elle doit rapporter telle hâte que notre maîtresse a de sortir, tel mécontentement que nous l'en ayons privée en rentrant trop tôt, notre jalousie, fouillant le passé pour en tirer les indications, n'y trouve rien. Toujours rétrospective, elle est comme un historien qui aurait à faire une histoire pour laquelle il n'est aucun document. Toujours en retard, elle se précipite comme un taureau furieux, là où ne se trouve pas l'être fier et brillant qui l'irrite de ses piqûres et dont la foule cruelle admire la magnificence et la ruse. La jalousie se débat dans le vide, incertaine comme nous le sommes dans ses rêves, où nous souffrons de ne pas trouver dans sa maison vide une personne que nous avons bien connue dans la vie, mais qui peut-être en est ici une autre et a seulement emprunté les traits d'un autre personnage, incertaine comme nous le sommes plus encore après le réveil quand nous cherchons à identifier tel ou tel détail de notre rêve. Quel air avait notre amie en nous disant cela? N'avait-elle pas l'air heureux? Ne sifflait-elle même pas, ce qu'elle ne fait que quand elle a quelque pensée amoureuse? Au temps de l'amour, pour peu que notre présence l'importune et l'irrite, ne nous a-t-elle pas dit une chose qui se trouve en contradiction avec ce qu'elle nous affirme maintenant, qu'elle connaît ou ne connaît pas telle personne? Nous ne le savons pas. Nous ne le saurons jamais. Nous nous acharnons à chercher les débris inconsistants d'un rêve. Et pendant ce temps, notre vie avec notre maîtresse continue, notre vie distraite devant ce que nous ignorons être important pour nous, attentive à ce qui ne l'est peut-être pas, en cauchemardée par des êtres qui sont sans rapport réels avec nous, pleine d'oubli, de lacunes, d'anxiété vaine. Notre vie, pareille à un songe. Je m'aperçus que la petite laitière était toujours là. Je lui dis que, décidément, ce serait bien loin, que je n'avais pas besoin d'elle. Aussitôt, elle trouva aussi que ce serait trop gênant. « Il y a un beau match tantôt, je ne voudrais pas le manquer. » Je sentis qu'elle devait déjà aimer les sports et que dans quelques années, elle dirait « vivre sa vie ». Je lui dis que décidément je n'avais pas besoin d'elle et je lui donnai 5 francs. Aussitôt, s'y attendant si peu et se disant que, si elle avait 5 francs pour ne rien faire, elle aurait beaucoup pour ma course, elle commença à trouver que son match n'avait pas d'importance. « J'aurais bien fait votre course, on peut toujours s'arranger. » Mais je la poussai vers la porte, j'avais besoin d'être seule. Il fallait à tout prix empêcher qu'Albertine pût retrouver au Trocadéro les amis de Léa. Il fallait y réussir. À vrai dire, je ne savais pas encore comment. Et pendant ces premiers instants, j'ouvrais mes mains, les regardais, faisais craquer les jointures de mes doigts. Soit que l'esprit qui ne peut trouver ce qu'il cherche, pris de paresse, s'accorde de faire halte pendant un instant, où les choses les plus indifférentes lui apparaissent distinctement, comme ces pointes d'herbe des talus qu'on voit du wagon trembler au vent quand le train s'arrête en rase campagne. Immobilité qui n'est pas toujours plus féconde que celle de la bête capturée, qui, paralysée par la peur ou fascinée, regarde sans bouger. Soit que je tinsse tout préparer mon corps, avec mon intelligence au-dedans, et en celle-ci, les moyens d'action sur telle ou telle personne. Comme n'étant plus qu'une arme, d'où partirait le coup qui séparerait Albertine de Léa et de ses 2 amis. Certes, le matin, quand Françoise était venue me dire qu'Albertine irait au Trocadéro, je m'étais dit « Albertine peut bien faire ce qu'elle veut ». Et j'avais cru que jusqu'au soir, par ce temps radieux, ces actions resteraient pour moi sans importance perceptible. Mais ce n'était pas seulement le soleil matinal, comme je l'avais pensé, qui m'avait rendu si insouciant. C'était parce que, ayant obligé Albertine à renoncer au projet qu'elle pouvait peut-être amorcer ou même réaliser chez les Verdurin, et l'ayant réduite à aller à une matinée que j'avais choisie moi-même et en vue de laquelle elle n'avait pu rien préparer, je savais que ce qu'elle ferait serait forcément innocent. De même, si Albertine avait dit quelques instants plus tard « Si je me tue, cela m'est bien égal », c'était parce qu'elle était persuadée qu'elle ne se tuerait pas. Devant moi, devant Albertine, il y avait en ce matin, bien plus que l'ensoleillement du jour, ce milieu que nous ne voyons pas, mais par l'intermédiaire translucide et changeant duquel nous voyons, moi, ses actions, elle, l'importance de sa propre vie, c'est-à-dire ses croyances que nous ne percevons pas, mais qui ne sont pas plus assimilables à un pur vide que n'est l'air qui nous entoure. Composant autour de nous une atmosphère variable, parfois excellente, souvent irrespirable, elle mériterait d'être relevée et notée avec autant de soin que la température, la pression barométrique, la saison, car nos jours ont leur originalité, physique et morale. La croyance, non remarquée ce matin par moi, et dont pourtant j'avais été joyeusement enveloppée jusqu'au moment où j'avais rouvert le Figaro, qu'Albertine ne ferait rien que d'inoffensif, cette croyance venait de disparaître. Je ne vivais plus dans la belle journée, mais dans une journée créée au sein de la première par l'inquiétude qu'Albertine renoua avec Léa, et plus facilement encore avec les deux jeunes filles, si elles allaient, comme cela me semblait probable, applaudir l'actrice au Trocadéro, où il ne leur serait pas difficile, dans un entr'acte, de retrouver Albertine. Je ne songeais plus à Mademoiselle Vinteuil. Le nom de Léa m'avait fait revoir, pour en être jaloux, l'image d'Albertine au casino, près des deux jeunes filles. Car je ne possédais dans ma mémoire que des séries d'Albertine séparées les unes des autres, incomplètes, des profils, des instantanés. Aussi, ma jalousie se confinait-elle à une expression discontinue, à la fois fugitive et fixée, et aux êtres qu'il avait amenés sur la figure d'Albertine. Je me rappelais celle-ci quand, à Balbec, elle était trop regardée par les deux jeunes filles ou par des femmes de ce genre. Je me rappelais la souffrance que j'éprouvais à voir parcourir, par des regards actifs comme ceux d'un peintre qui veut prendre un croquis, le visage entièrement recouvert par eux et qui, à cause de ma présence sans doute, subissait ce contact sans avoir l'air de s'en apercevoir, avec une passivité peut-être clandestinement voluptueuse. Et avant qu'elle se ressaisît et me parlât, il y avait une seconde pendant laquelle Albertine ne bougeait pas, souriait dans le vide, avec le même air de naturel fin et de plaisir dissimulé que si on avait été en train de faire sa photographie, ou même pour choisir devant l'objectif une pose plus fringante, celle même qu'elle avait prise à Doncières quand nous nous promenions avec Saint-Loup. Riante et passant sa langue sur ses lèvres, elle faisait semblant d'agacer un chien. Certes, à ces moments, elle n'était nullement la même que quand c'était elle qui était intéressée par des fillettes qui passaient. Dans ce dernier cas, au contraire, son regard étroit et velouté se fixait, se collait sur la passante, si adhérent, si corrosif, qu'il semblait qu'en se retirant, il aurait dû emporter la peau. Mais en ce moment, ce regard-là, qui du moins lui donnait quelque chose de sérieux jusqu'à la faire paraître souffrante, m'avait semblé doux auprès du regard atone et heureux qu'elle avait près des deux jeunes filles. Et j'aurais préféré la sombre expression du désir qu'elle ressentait peut-être quelquefois à la riante expression causée par le désir qu'elle inspirait. Elle avait beau essayer de voiler la conscience qu'elle en avait, celle-ci la baignait, l'enveloppait, vaporeuse, voluptueuse, faisait paraître sa figure toute rose. Mais tout ce qu'Albertine tenait à ces moments-là, en suspens en elle, qui irradiait autour d'elle et me faisait en souffrir, qui sait si, hors de ma présence, elle continuerait à le taire, si aux avances des deux jeunes filles, maintenant que je n'étais pas là, elle ne répondrait pas audacieusement. Certes, ces souvenirs me causaient une grande douleur. Ils étaient comme un aveu total des goûts d'Albertine, une confession générale de son infidélité, contre quoi ne pouvaient prévaloir les sentiments particuliers qu'elle me faisait, auxquels je voulais croire, les résultats négatifs de mes incomplètes enquêtes, les assurances, peut-être faites de connivence avec elle, d'André. Albertine pouvait me nier ces trahisons particulières. Par des mots qui lui échappaient, plus forts que les déclarations contraires, par ses regards seuls, elle avait fait l'aveu de ce qu'elle eût voulu cacher, bien plus que de faits particuliers, de ce qu'elle se fût fait tuer plutôt que de reconnaître, de son penchant. Car aucun être ne veut livrer son âme. Malgré la douleur que ces souvenirs me causaient, aurais-je pu nier que c'était le programme de la matinée du Trocadéro qui avait réveillé mon besoin d'Albertine? Elle était de ces femmes à qui leur faute pourrait au besoin tenir lieu de charme. Et autant que leur faute, leur bonté qui y succède et ramène en nous cette douceur qu'avec elle, comme un malade qui n'est jamais bien portant deux jours de suite, nous sommes sans cesse obligés de reconquérir. D'ailleurs, plus même que leurs fautes pendant que nous les aimons, il y a leurs fautes avant que nous les connaissions, et la première de toutes, leur nature. Ce qui rend douloureuses de tels amours, en effet, c'est qu'il leur préexiste une espèce de péché originel de la femme, un péché qui nous les fait aimer, de sorte que, quand nous l'oublions, nous avons moins besoin d'elle, et que pour recommencer à aimer, il faut recommencer à souffrir. En ce moment, qu'elle ne retrouva pas les deux jeunes filles, et savoir si elle connaissait Léa ou non, était ce qui me préoccupait le plus, en dépit de ce qu'on ne devrait pas s'intéresser aux faits particuliers autrement qu'à cause de leur signification générale, et malgré la puérilité qu'il y a, aussi grande que celle du voyage ou du désir de connaître des femmes, de fragmenter sa curiosité sur ce qui, du torrent invisible des réalités cruelles qui nous resteront toujours inconnues, a fortuitement cristallisé dans notre esprit. D'ailleurs, arriverions-nous à détruire cette cristallisation qu'elle serait remplacée par une autre aussitôt? Hier, je craignais qu'Albertine n'allât chez Madame Verdurin. Maintenant, je n'étais plus préoccupée que de Léa. La jalousie, qui a un bandeau sur les yeux, n'est pas seulement impuissante à rien découvrir dans les ténèbres qui l'enveloppent. Elle est encore un de ces supplices où la tâche est à recommencer sans cesse, comme celle des Danaïdes, comme celle d'Ixion. Même si ses amis n'étaient pas là, quelle impression pouvait faire sur elle Léa, embellie par le travestissement, glorifiée par le succès? Quelle rêverie laisserait-elle à Albertine? Quel désir qui, même refrénée, lui donnerait le dégoût d'une vie chez moi où elle ne pouvait les assouvir? D'ailleurs, qui sait si elle ne connaissait pas Léa et n'irait pas la voir dans sa loge? Et même si Léa ne la connaissait pas, qui m'assurait que, l'ayant en tout cas aperçue à Balbec, elle ne la reconnaîtrait pas et ne lui ferait pas de la scène un signe qui autoriserait Albertine à se faire ouvrir la porte des coulisses? Un danger semble très évitable quand il est conjuré. Celui-ci ne l'était pas encore. J'avais peur qu'il ne pût pas l'être, et il me semblait d'autant plus terrible. Et pourtant, cet amour pour Albertine, que je sentais presque s'évanouir quand j'essayais de le réaliser. La violence de ma douleur en ce moment semblait en quelque sorte m'en donner la preuve. Je n'avais plus souci de rien d'autre. Je ne pensais qu'au moyen de l'empêcher de rester au Trocadéro. J'aurais offert n'importe quelle somme à Léa pour qu'elle n'y allât pas. Si donc on prouve sa préférence par l'action qu'on accomplit plus que par l'idée qu'on forme, j'aurais aimé Albertine. Mais cette reprise de ma souffrance ne donnait pas plus de consistance en moi à l'image d'Albertine. Elle causait mes maux comme une divinité qui reste invisible. Faisant mille conjectures, je cherchais à parer à ma souffrance sans réaliser pour cela mon amour. D'abord, il fallait être certain que Léa alla vraiment au Trocadéro. Après avoir congédié la laitière, je téléphonai à Bloch, lié lui aussi avec Léa, pour le lui demander. Il n'en savait rien et parut étonné que cela pût m'intéresser. Je pensais qu'il me fallait aller vite, que Françoise était tout habillée et moi pas. Et pendant que moi-même je me levais, je lui fis prendre une automobile. Elle devait aller au Trocadéro, prendre un billet, chercher Albertine partout dans la salle et lui remettre un mot de moi. Dans ce mot, je lui disais que j'étais bouleversée par une lettre reçue à l'instant de la même dame à cause de qui elle savait que j'avais été si malheureux une nuit à Balbec. Je lui rappelais que le lendemain, elle m'avait reproché de ne pas l'avoir fait appeler. Aussi, je me permettais, lui disais-je, de lui demander de me sacrifier sa matinée et de venir me chercher pour aller prendre un peu l'air ensemble afin de tâcher de me remettre. Mais comme j'en avais pour assez longtemps avant d'être habillée et prêt, elle me ferait plaisir de profiter de la présence de Françoise pour aller acheter aux trois quartiers. Ce magasin étant plus petit, m'inquiétait moins que le bon marché. La guimpe de tulle blanc dont elle avait besoin. Mon mot n'était probablement pas inutile. À vrai dire, je ne savais rien qu'eût fait Albertine depuis que je la connaissais, ni même avant. Mais dans sa conversation, Albertine aurait pu, si je lui en eusse parlé, dire que j'avais mal entendu. Il y avait certaines contradictions, certaines retouches qui me semblaient aussi décisives qu'un flagrant délit, mais moins utilisables contre Albertine, qui, souvent, prise en faute comme un enfant, grâce à de brusques redressements stratégiques, avait chaque fois rendu vaines mes cruelles attaques et rétabli la situation. Cruelle surtout pour moi. Elle usait, non par raffinement de style, mais pour réparer ses imprudences, de ces brusques sautes de syntaxe ressemblant un peu à ce que les grammairiens appellent « anacolute » ou je ne sais comment. S'étant laissé aller, en parlant femme, à dire « Je me rappelle que dernièrement je… » Brusquement, après un quart de soupir, « je » devenait « elle ». C'était une chose qu'elle avait aperçue en promeneuse innocente et nullement accomplie. Ce n'était pas elle qui était le sujet de l'action. J'aurais voulu me rappeler exactement le commencement de la phrase pour conclure moi-même, puisqu'elle lâchait pied, à ce qu'en eût été la fin. Mais comme j'avais attendu cette fin, je me rappelais mal le commencement, que peut-être mon air d'intérêt lui avait fait dévier. Et je restais anxieux de sa pensée vraie, de son souvenir véridique. Il en est malheureusement des commencements d'un mensonge de notre maîtresse, comme des commencements de notre propre amour ou d'une vocation. Ils se forment, se conglomèrent, ils passent, inaperçus de notre propre attention. Quand on veut se rappeler de quelle façon on a commencé d'aimer une femme, on aime déjà. Les rêveries d'avant, on ne se disait pas « c'est le prélude d'un amour, faisons attention ». Et elles avançaient par surprise, à peine remarquées de nous. De même, sauf des cas relativement assez rares, ce n'est guère que pour la commodité du récit que j'ai souvent opposé ici un dire mensonger d'Albertine à son assertion première sur le même sujet. Cette assertion première, souvent, ne lisant pas dans l'avenir et ne devinant pas quelle affirmation contradictoire lui ferait pendant, elle s'était glissée inaperçue, entendue certes de mes oreilles, mais sans que je l'isolasse de la continuité des paroles d'Albertine. Plus tard, devant le mensonge parlant, ou pris d'un doute anxieux, j'aurais voulu me rappeler. C'était en vain. Ma mémoire n'avait pas été prévenue à temps. Elle avait cru inutile de garder copie. Je recommandais à Françoise, quand elle aurait fait sortir Albertine de la salle, de m'en avertir par téléphone et de la ramener, contente ou non. Il ne manquerait plus que cela, qu'elle ne soit pas contente de venir voir monsieur, répondit Françoise. Mais je ne sais pas si elle aime tant que cela me voir. Il faudrait qu'elle soit bien ingrate, reprit Françoise, en qui Albertine renouvelait, après tant d'années, le même supplice d'envie que lui avait causé jadis Eulalie auprès de ma tante. Ignorant que la situation d'Albertine auprès de moi n'avait pas été cherchée par elle, mais voulue par moi, ce que, par amour-propre et pour faire enrager Françoise, j'aimais autant lui cacher. Elle admirait et exécrait son habileté, l'appelait, quand elle parlait d'elle aux autres domestiques, une comédienne, une enjôleuse, qui faisait de moi ce qu'elle voulait. Elle n'osait pas encore entrer en guerre contre elle, lui faisait bon visage, et se faisait mérite auprès de moi des services qu'elle me rendait dans ses relations avec moi, pensant qu'il était inutile de me rien dire et qu'elle n'arriverait à rien, mais à l'affût d'une occasion. Si jamais elle découvrait, dans la situation d'Albertine, une fissure, elle se promettait bien de l'élargir et de nous séparer complètement. Bien ingrate ? Mais non, Françoise, c'est moi qui me trouve ingrat. Vous ne savez pas comme elle est bonne pour moi. Il m'était si doux d'avoir l'air d'être aimée. Partez vite. Je vais me cavaler, et presto. L'influence de sa fille commençait à altérer un peu le vocabulaire de Françoise. Ainsi perdent leur pureté toutes les langues par l'adjonction de termes nouveaux. Cette décadence du parler de Françoise, que j'avais connue à ces belles époques, j'en étais, du reste, indirectement responsable. La fille de Françoise n'aurait pas fait dégénérer jusqu'au plus bas jargon le langage classique de sa mère, si elle s'était contentée de parler patois avec elle. Elle ne s'en était jamais privée. Et quand elles étaient toutes deux auprès de moi, si elles avaient des choses secrètes à se dire, au lieu d'aller s'enfermer dans la cuisine, elles se faisaient, en plein milieu de ma chambre, une protection plus infranchissable que la porte la mieux fermée, en parlant patois. Je supposais seulement que la mère et la fille ne vivaient pas toujours en très bonne intelligence, si j'en jugeais par la fréquence avec laquelle revenait le seul mot que je pusse distinguer, « mésaspérate », à moins que l'objet de cette exaspération ne fût moi. Malheureusement, la langue la plus inconnue finit par s'apprendre quand on l'entend toujours parler. Je regrettais que ce fût le patois, car j'arrivais à le savoir et n'aurais pas moins bien appris si Françoise avait eu l'habitude de s'exprimer en persan. Françoise, quand elle s'aperçut de mes progrès, eut beau accélérer son débit, et sa fille pareillement, rien n'y fit. La mère fut désolée que je comprisse le patois, puis contente de me l'entendre parler. À vrai dire, ce contentement, c'était de la moquerie, car bien que j'eusse fini par le prononcer à peu près comme elle, elle trouvait entre nos deux prononciations des abîmes qui la ravissaient, et se mit à regretter de ne plus voir des gens de son pays auxquels elle n'avait jamais pensé depuis bien des années, et qui, paraît-il, se serait tordu d'un rire qu'elle eût voulu entendre en m'écoutant parler si mal le patois. Cette seule idée la remplissait de gaieté et de regret, et elle énumérait tel ou tel paysan qui en aurait eu des larmes de rire. En tout cas, aucune joie ne mélangea la tristesse, que, même le prononçant mal, je le comprisse bien. Les clés deviennent inutiles quand celui qu'on veut empêcher d'entrer peut se servir d'un passe-partout ou d'une pince monseigneur. Le patois devenant une défense sans valeur, elle se mit à parler avec sa fille, un français qui devint bien vite celui des plus basses époques. J'étais prêt. Françoise n'avait pas encore téléphoné. Fallait-il partir sans attendre? Mais qui sait si elle trouverait Albertine? Et si celle-ci ne serait pas dans les coulisses? Si même, rencontrée par Françoise, elle se laisserait ramener? Une demi-heure plus tard, le tintement du téléphone retentit, et dans mon cœur battaient tumultueusement l'espérance et la crainte. C'était, sur l'ordre d'un employé de téléphone, un escadron volant de sons qui, avec une vitesse instantanée, m'apportait les paroles du téléphoniste, non celles de Françoise, qu'une timidité et une mélancolie ancestrales, appliquées à un objet inconnu de ses pairs, empêchaient de s'approcher d'un récepteur, quitte à visiter des contagieux. Elle avait trouvé au promenoir Albertine seule, qui, étant allée seulement prévenir André qu'elle ne restait pas, avait rejoint aussitôt Françoise. Elle n'était pas fâchée? Ah, pardon, demandez à cette dame si cette demoiselle n'était pas fâchée. Cette dame me dit de vous dire que non, pas du tout, que c'était tout le contraire. En tout cas, si elle n'était pas contente, ça ne se connaissait pas. Elles partent maintenant aux trois quartiers et seront rentrées à 2 heures. Je compris que 2 heures signifiait 3 heures, car il était plus de 2 heures. Mais c'était chez Françoise un de ses défauts particuliers, permanent, inguérissable, que nous appelons maladie, de ne pouvoir jamais regarder ni dire l'heure exactement. Je n'ai jamais pu comprendre ce qui se passait dans sa tête. Quand Françoise, ayant regardé sa montre, s'il était 2 heures, disait « Il est 1 heure » ou « Il est 3 heures », je n'ai jamais pu comprendre si le phénomène qui avait lieu alors avait pour siège la vue de Françoise ou sa pensée ou son langage. Ce qui est certain, c'est que ce phénomène avait toujours lieu. L'humanité est très vieille. L'hérédité, les croisements, ont donné une force immuable à de mauvaises habitudes, à des réflexes vicieux. Une personne éternue et râle parce qu'elle passe près d'un rosier. Une autre a une éruption à l'odeur de la peinture fraîche. Beaucoup des coliques s'il faut partir en voyage. Et des petits-fils de voleurs, qui sont millionnaires et généreux, ne peuvent résister à vous voler 50 francs. Quant à savoir en quoi consistait l'impossibilité où était Françoise de dire l'heure exactement, ce n'est pas elle qui m'a jamais fourni aucune lumière à cet égard. Car malgré la colère où ses réponses inexactes me mettaient d'habitude, Françoise ne cherchait ni à s'excuser de son erreur, ni à l'expliquer. Elle restait muette, avait l'air de ne pas m'entendre, ce qui achevait de m'exaspérer. J'aurais voulu entendre une parole de justification, ne fût-ce que pour la battre en brèche. Mais rien, un silence indifférent. En tout cas, pour ce qui était d'aujourd'hui, il n'y avait pas de doute. Albertine allait rentrer avec Françoise à 3 heures. Albertine ne verrait ni Léa ni ses amis. Alors, ce danger qu'elle renoua des relations avec elle étant conjuré, il perdit aussitôt à mes yeux de son importance, et je m'étonnais, en voyant avec quelle facilité il l'avait été, d'avoir cru que je ne réussirais pas à ce qu'il le fût. J'éprouvais un vif mouvement de reconnaissance pour Albertine, qui, je le voyais, n'était pas allée au Trocadéro pour les amis de Léa, et qui me montrait, en quittant la matinée et en rentrant sur un signe de moi, qu'elle m'appartenait plus que je ne me le figurais. Il fut plus grand encore quand un cycliste me porta un mot d'elle pour que je prisse patience, et où il y avait de ces gentilles expressions qui lui étaient familières. « Mon chéri et cher Marcel, j'arrive moins vite que ce cycliste dont je voudrais bien prendre la bécane pour être plus tôt près de vous. Comment pouvez-vous croire que je puisse être fâchée et que quelque chose puisse m'amuser autant que d'être avec vous? Ce sera gentil de sortir tous les deux. Ce serait encore plus gentil de ne jamais sortir que tous les deux. Quelles idées vous faites-vous donc? Quel Marcel! Quel Marcel! Tout à vous, ton Albertine. Les robes même que je lui achetais, le yacht dont je lui avais parlé, les peignoirs de Fortuny, tout cela ayant dans cette obéissance d'Albertine, non pas sa compensation, mais son complément, m'apparaissait comme autant de privilèges que j'exerçais, car les devoirs et les charges d'un maître font partie de sa domination, et le définissent, le prouvent tout autant que ses droits. Et ces droits, qu'elle me reconnaissait, donnaient précisément à mes charges leur véritable caractère. J'avais une femme à moi qui, au premier mot que je lui envoyais à l'improviste, me faisait téléphoner avec déférence qu'elle revenait, qu'elle se laissait ramener, aussitôt. J'étais plus maître que je n'avais cru. Plus maître, c'est-à-dire plus esclave. Je n'avais plus aucune impatience de voir Albertine. La certitude qu'elle était en train de faire une course avec Françoise, ou qu'elle reviendrait avec celle-ci à un moment prochain, et que j'eusse volontiers prorogé, éclairait comme un astre radieux et paisible un temps que j'eusse eu maintenant bien plus de plaisir à passer seul. Mon amour pour Albertine m'avait fait lever et me préparer pour sortir, mais il m'empêcherait de jouir de ma sortie. Je pensais que, par ce dimanche-là, des petites ouvrières, des midinettes, des cocottes devaient se promener au bois. Et avec ces mots de midinettes, de petites ouvrières, comme cela m'était souvent arrivé avec un nom propre, un nom de jeune fille lu dans le compte-rendu d'un bal, avec l'image d'un corsage blanc, d'une jupe courte, parce que derrière cela, je m'étais une personne inconnue et qui pourrait m'aimer. Je fabriquais tout seul des femmes désirables et je me disais « comme elles doivent être bien !» Mais à quoi me serviraient-elles, qu'elles le fussent, puisque je ne sortirais pas seule? Profitant de ce que j'étais encore seule et fermant à demi les rideaux pour que le soleil ne m'empêchât pas de lire les notes, je m'assis au piano et ouvris au hasard la sonate de Vinteuil qui y était posée, et je me mis à jouer. Parce que l'arrivée d'Albertine était encore un peu éloignée, mais en revanche tout à fait certaine, j'avais à la fois du temps et de la tranquillité d'esprit. Baignée dans l'attente pleine de sécurité de son retour avec Françoise, et la confiance en sa docilité, comme dans la béatitude d'une lumière intérieure aussi réchauffante que celle du dehors, je pouvais disposer de ma pensée, la détacher un moment d'Albertine, l'appliquer à la sonate. Même en celle-ci, je ne m'attachais pas à remarquer combien la combinaison du motif voluptueux et du motif anxieux répondait davantage maintenant à mon amour pour Albertine, duquel la jalousie avait été si longtemps absente que j'avais pu confesser à Swann mon ignorance de ce sentiment. Non. Prenant la sonate à un autre point de vue, la regardant en soi-même comme l'œuvre d'un grand artiste, j'étais ramenée par le flot sonore vers les jours de Combray. Je ne veux pas dire de mon Jouvin et du côté de mes églises, mais des promenades du côté de Guermantes, où j'avais moi-même désiré d'être un artiste. En abandonnant, en fait, cette ambition, avais-je renoncé à quelque chose de réel? La vie pouvait-elle me consoler de l'art? Y avait-il dans l'art une réalité plus profonde, où notre personnalité véritable trouve une expression que ne lui donnent pas les actions de la vie? Chaque grand artiste semble, en effet, si différent des autres, et nous donne tant cette sensation de l'individualité que nous cherchons en vain dans l'existence quotidienne. Au moment où je pensais cela, une mesure de la sonate me frappa. Mesure que je connaissais bien pourtant, mais parfois l'attention éclaire différemment des choses connues pourtant depuis longtemps et où nous remarquons ce que nous n'avions jamais vu. En jouant cette mesure, et bien que Vinteuil fût là en train d'exprimer un rêve qui fût resté tout à fait étranger à Wagner, je ne pus m'empêcher de murmurer « Tristan !» Avec le sourire qu'a l'ami d'une famille retrouvant quelque chose de l'aïeul dans une intonation, un geste du petit-fils qui ne l'a pas connu. Et comme on regarde alors une photographie qui permet de préciser la ressemblance, par-dessus la sonate de Vinteuil, j'installais sur le pupitre la partition de Tristan, dont on donnait justement cet après-midi-là des fragments au concert Lamoureux. Je n'avais, à admirer le maître de Bayreuth, aucun des scrupules de ceux à qui, comme à Nietzsche, le devoir dicte de fuir, dans l'art comme dans la vie, la beauté qui les tente, et qui s'arrachent à Tristan comme il renie Parsifal et parascétisme spirituel, de mortification en mortification, parviennent, en suivant le plus sanglant des chemins de croix, à s'élever jusqu'à la pure connaissance et à l'adoration parfaite du postillon de Longjumeau. Je me rendais compte de tout ce qu'a de réel l'œuvre de Wagner, en revoyant ces thèmes insistants et fugaces qui visitent un acte, ne s'éloignent que pour revenir, et, parfois lointains, assoupis, presque détachés, sont, à d'autres moments, tout en restant vagues, si pressants et si proches, si internes, si organiques, si viscéraux, qu'on dirait la reprise moins d'un motif que d'une névralgie. La musique, bien différente en cela de la société d'Albertine, m'aidait à descendre en moi-même, à y découvrir du nouveau. La variété que j'avais en vain cherchée dans la vie, dans le voyage, dont pourtant la nostalgie m'était donnée par ce flot sonore qui faisait mourir à côté de moi ces vagues ensoleillées. Diversité double. Comme le spectre extériorise pour nous la composition de la lumière, l'harmonie d'un Wagner, la couleur d'un Elstir, nous permettent de connaître cette essence qualitative des sensations d'un autre, où l'amour pour un autre être ne nous fait pas pénétrer. Puis diversité au sein de l'œuvre même, par le seul moyen qu'il y a d'être effectivement divers. Réunir diverses individualités. Là où un petit musicien prétendrait qu'il peint un écuyer, un chevalier, alors qu'il leur ferait chanter la même musique, au contraire, sous chaque dénomination, Wagner met une réalité différente, et chaque fois que paraît un écuyer, c'est une figure particulière, à la fois compliquée et simpliste, qui, avec un entrechoc de lignes joyeuses et féodales, s'inscrit dans l'immensité sonore. D'où la plénitude d'une musique que remplissent en effet tant de musiques dont chacune est un être. Un être ou l'impression que nous donne un aspect momentané de la nature. Même ce qui est le plus indépendant du sentiment qu'elle nous fait éprouver garde sa réalité extérieure et entièrement définie. Le chant d'un oiseau, la sonnerie du cor d'un chasseur, l'air que joue un pâtre sur son chalumeau découpent à l'horizon leur silhouette sonore. Certes, Wagner allait la rapprocher, s'en saisir, la faire entrer dans un orchestre, la servir aux plus hautes idées musicales, mais en respectant toutefois son originalité première, comme un huchier les fibres, l'essence particulière du bois qu'il sculpte. Mais malgré la richesse de ses œuvres, où la contemplation de la nature a sa place à côté de l'action, à côté d'individus qui ne sont pas que des noms de personnages, je songeais combien tout de même ces œuvres participent à ce caractère d'être, bien que merveilleusement, toujours incomplète, qui est le caractère de toutes les grandes œuvres du XIXe siècle, dont les plus grands écrivains ont manqué leurs livres, mais se regardant travailler, comme s'ils étaient à la fois l'ouvrier et le juge, on tirait de cette auto-contemplation une beauté nouvelle extérieure et supérieure à l'œuvre, lui imposant rétroactivement une unité, une grandeur qu'elle n'a pas. Sans s'arrêter à celui qui a vu après coup dans ses romans une comédie humaine, ni à ceux qui appelèrent des poèmes ou des essais disparates, la légende des siècles et la Bible de l'humanité, ne peut-on pas dire pourtant de ce dernier qu'il incarne si bien le XIXe siècle que les plus grandes beautés de Michelet, il ne faut pas tant les chercher dans son œuvre même que dans les attitudes qu'il prend en face de son œuvre, non pas dans son histoire de France ou dans son histoire de la Révolution, mais dans ses préfaces à ses livres. Préfaces, c'est-à-dire pages écrites après eux, où il les considère et auxquelles il faut joindre ça et là quelques phrases, commençant d'habitude par un « le dirai-je » qui n'est pas une précaution de savant, mais une cadence de musicien. L'autre musicien, celui qui me ravissait en ce moment, Wagner, tirant de ses tiroirs un morceau délicieux pour le faire entrer comme thème rétrospectivement nécessaire dans une œuvre à laquelle il ne songeait pas au moment où il l'avait composée, puis ayant composé un premier opéra mythologique, puis un second, puis d'autres encore, et s'apercevant tout à coup qu'il venait de faire une tétralogie, dut éprouver un peu de la même ivresse que Balzac, quand, jetant sur ses ouvrages le regard à la fois d'un étranger et d'un père, trouvant à celui-ci la pureté de Raphaël, à cet autre la simplicité de l'Évangile, il s'avisa brusquement, en projetant sur eux une illumination rétrospective, qu'il serait plus beau réuni en un cycle où les mêmes personnages reviendraient, et ajouta à son œuvre, en ce raccord, un coup de pinceau, le dernier et le plus sublime. Unité ultérieure, non factice, sinon elle fut tombée en poussière, comme tant de systématisations d'écrivains médiocres, qui, à grand renfort de titres et de sous-titres, se donne l'apparence d'avoir poursuivi un seul et transcendant dessein. Non factice, peut-être même plus réel d'être ultérieure, d'être née d'un moment d'enthousiasme où elle est découverte entre des morceaux qui n'ont plus qu'à se rejoindre. Unité qui s'ignorait, donc vitale et non logique, qui n'a pas proscrit la variété, refroidit l'exécution. Elle surgit, mais s'appliquant cette fois à l'ensemble, comme tel morceau composé à part, né d'une inspiration, non exigé par le développement artificiel d'une thèse, et qui vient s'intégrer au reste. Avant le grand mouvement d'orchestre qui précède le retour d'Iseux, c'est l'œuvre elle-même qui a attiré à soi l'air de chalumeau à demi oublié d'un pâtre. Et sans doute, autant la progression de l'orchestre à l'approche de la nef, quand il s'empare de ses notes du chalumeau, les transforme, les associe à son ivresse, brise leur rythme, éclaire leur tonalité, accélère leur mouvement, multiplie leur instrumentation, autant sans doute Wagner lui-même a eu de joie quand il découvrit dans sa mémoire l'air d'un pâtre, l'agrégea à son œuvre, lui donna toute sa signification. Cette joie, du reste, ne l'abandonne jamais. Chez lui, quelle que soit la tristesse du poète, elle est consolée, surpassée, c'est-à-dire malheureusement vite détruite, par l'allégresse du fabricateur. Mais alors, autant que par l'identité, que j'avais remarquée tout à l'heure entre la phrase de Vinteuil et celle de Wagner, j'étais troublée par cette habileté vulcanienne. Serait-ce elle qui donnerait chez les grands artistes l'illusion d'une originalité foncière, irréductible en apparence, reflet d'une réalité plus qu'humaine, en fait produit d'un labeur industrieux? Si l'art n'est que cela, il n'est pas plus réel que la vie, et je n'avais pas tant de regrets à avoir. Je continuais à jouer Tristan. Séparé de Wagner par la cloison sonore, je l'entendais exulter, m'inviter à partager sa joie, J'entendais redoubler le rire, immortellement jeune, et les coups de marteau de Siegfried. Du reste, plus merveilleusement frappées étaient ses phrases, plus librement l'habileté technique de l'ouvrier servait à leur faire quitter la terre. Oiseau, pareil, non, au signe de Lohengrin, mais à cet aéroplane que j'avais vu à Balbec changer son énergie en élévation, planer au-dessus des flots et se perdre dans le ciel. Peut-être, comme les oiseaux qui montent le plus haut, qui volent le plus vite, ont une aile plus puissante, fallait-il de ces appareils vraiment matériels pour explorer l'infini, de ces 20 chevaux marque mystère, où pourtant, si haut qu'on plane, on est un peu empêché de goûter le silence des espaces par le puissant ronflement du moteur.